Méditation, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 18. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et te demandons de nous éclairer par ton Esprit Saint, de nous conduire dans ta parole afin que nous la recevions telle qu'elle est. Nous te prions que tu ouvres notre intelligence pour que nous puissions la saisir et que tu inclines aussi nos cœurs dans la soumission et dans l'obéissance à ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Ça vous est certainement déjà arrivé de faire des analyses sanguines, hein, quand on fait de temps en temps un bilan sanguin et on prélève le sang, une portion, un échantillon de sang pour faire pour chercher, voir s'il n'y a pas des traces de maladies ou de signes pathologiques ou des marqueurs. On appelle ça souvent des marqueurs. Et je m'appelle ma fille, me disait, oui, quand on a fait un AVC, par exemple, on peut retrouver dans le sang des marqueurs qui l'indiquent, même si on ne le savait pas. Et donc, la présence ou l'absence, peut-être, de certains marqueurs permettent de tirer des conséquences médicales, en tout cas, sur la des conséquences sur la santé. Et je crois qu'il en est de même dans le domaine spirituel aussi. Il y a des marqueurs dont la présence ou l'absence permet de tirer des conclusions sur la réalité spirituelle, parfois de la vie. Et dans la première épître de Jean, dont nous avons lu un extrait, cette épître écrite pour donner des certitudes aux croyants, hein, Jean 5, 13 dit, il dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, ici. Eh bien, l'apôtre Jean lutte, en même temps qu'il donne des encouragements à ses chrétiens qu'il appelle ses petits-enfants, il lutte contre des hérésies et il décrit la vie chrétienne dans un tableau qui n'est pas en couleur avec des nuances, mais qui est en noir et blanc, très tranché. Et si vous lisez l'épître, il est question de ténèbres et de lumière. Il est question de mort ou de vie, de mensonge ou de vérité, de haine ou d'amour. Pour Jean, c'est ou noir ou blanc. Il n'y a pas de teinte, de couleur avec des nuances particulières. Et il affirme qu'il n'y a que deux catégories de personnes, en fait. Deux catégories de personnes, spirituellement parlant. Il y a d'un côté les enfants de Dieu et de l'autre les enfants du diable. Et il dit donc à ces chrétiens qu'il y a des marqueurs, des choses qui peuvent nous aider à discerner de qui on est fils du diable, enfant du diable ou enfant de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans ce verset 10. Regardez au verset 10, chapitre 3, verset 10, il dit « C'est par là que nous, que se font reconnaître ». Donc il y a une possibilité, une manière avec laquelle on peut reconnaître, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a des marqueurs pour pouvoir reconnaître qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Et il ajoute, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Mais si vous allez au chapitre 2, verset 29, il disait déjà, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il parle de Dieu, de Jésus-Christ, il dit, il est juste, donc celui qui pratique la justice, il est un enfant de Dieu. De même, il dit ici que celui qui n'aime pas, qui ne pratique pas la justice, eh bien, il n'est pas de Dieu, et non plus celui qui n'aime pas son frère. Et c'est surtout sur ce marqueur-là que je voudrais m'arrêter ce matin, et considérer ce que l'apôtre Jean dit ici, à savoir que l'amour des frères est une marque distinctive des enfants de Dieu. L'amour pour les frères, c'est le titre de notre méditation ce matin. L'amour pour les frères est une marque distinctive des enfants de Dieu. Première chose ici, verset 11, il dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » C'est le commandement qui a été donné aux croyants. Et la première chose, on pourrait dire, sur laquelle Jean attire l'attention de ses lecteurs, c'est que le commandement originel, et puis substantiel même de l'Évangile, c'est l'amour pour les frères. C'est ce qui vous a été annoncé, autrement dit, d'autres textes disent, c'est le message que vous avez entendu dès le commencement, nous devons nous aimer les uns les autres. Et à d'autres endroits dans la lettre, il rappelle cela. Donc le commandement de l'amour du prochain est un commandement qui est ancien. Quelque part, il dit que c'est un commandement ancien, mais en même temps, c'est un commandement nouveau. Et donc, le commandement de l'amour du prochain, par exemple, est un commandement ancien que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 19, où il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et même l'amour pour l'étranger était demandé au peuple d'Israël. Vous pouvez lire ça à plusieurs endroits, mais notamment dans le Deutéronome, chapitre 19, où Dieu dit « Vous aimerez l'étranger parce que vous avez été étranger dans le pays d'Égypte ». Mais l'amour fraternel, l'amour pour les frères, est un commandement que Dieu donne surtout dans l'Évangile, que Jésus donne dans l'Évangile. Il est donc quelque part, par le fait qu'il demande d'aimer, un commandement ancien, mais il est nouveau par la qualité et l'intensité que l'Évangile lui confère. Et nous nous souvenons, bien sûr, que ce que Jésus disait sur la montagne, ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne, quand il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et je vous fais remarquer ici la relation filiale, ainsi que Jésus fait entre Dieu et puis ceux qui aiment leurs ennemis. Il dit, vous allez aimer vos ennemis, vous allez les bénir, vous allez prier pour ceux qui vous maltraitent, de sorte que vous transmettiez le caractère de Dieu, que vous soyez fils de votre Père céleste qui est dans les cieux. Et c'était le commandement, l'amour des frères était le commandement de Jésus à ses disciples quand il dit en Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On pourrait dire qu'il leur demande de faire plein de choses, etc. Mais il résume ce qu'il attend d'eux dans l'amour qu'ils doivent avoir les uns pour les autres. Il n'est pas question ici de l'amour pour tout le monde. Il est question de l'amour que ceux qui sont disciples de Christ doivent exercer entre eux. Dans les Épîtres, on trouve la même chose. L'apôtre Paul, en Romains chapitre 13, par exemple, dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc il dit aux chrétiens à qui il écrit « Ne devez rien à personne sinon, garder la dette de l'amour. » Et puis, pour finir, l'apôtre Pierre dit, en 1 Pierre 1, verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, il dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, on pourrait encore citer pas mal d'autres versets dans la Bible où on voit ce commandement qui est fait au croyants, ce ne sont pas des commandements qui sont faits à ceux qui ne connaissent pas Christ. La Bible ne demande pas à ceux qui ne connaissent pas d'aimer de tout leur cœur, parce que ça n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. L'homme naturel n'aime pas les autres. Il s'aime lui, d'une certaine manière. Il est égoïste, égocentrique, mais il n'est pas tourné vers les autres. L'amour est le signe, l'amour pour les frères est le signe distinctif des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que ce commandement est donné aux enfants de Dieu. Donc ici, Jean dit que c'est le commandement qui vous a été donné, de vous aimer les uns les autres. Et puis après, il dit aussi, il montre ici que l'amour pour les frères, eh bien, c'est le signe évident de la nouvelle naissance. L'amour pour les frères, c'est le signe évident de la nouvelle naissance. Regardez à partir du verset 12, il dit qu'on ne doit pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Dit-il, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Verset 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si on posait la question, comment savez-vous que vous êtes un enfant de Dieu? Comment savez-vous que vous avez la vie éternelle? On pourrait dire, mais je le sais parce que la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, dans le Fils, a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est vrai, parce que l'Écriture le dit ici. Mais cela ne dit pas que c'est vrai forcément pour moi ici. Je peux dire, oui, je crois au nom du Fils de Dieu. Il y a qu'une fois, je me rappelle quelqu'un, quand on était jeunes, étudiant à Bordeaux, et puis cette personne est allée dans la rue et puis a attrapé des personnes qui passaient et puis a dit « Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Il y a des gens qui ont dit « Oui ». Il a dit « Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés ?» Les gens ont dit « Oui ». Est-ce que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ ?» Il a dit « Oui, je crois ». Et puis cette personne a dit « Amen, vous êtes un enfant de Dieu ». D'accord ? Bon, c'est pas... On peut répondre oui à des questions comme celle-là, sans pour autant être véritablement un enfant de Dieu. Mais là, ici, l'apôtre Jean donne quelque chose qui est un signe infaillible de la réalité de la vie nouvelle en quel cas. Il dit, nous savons, et c'est un témoignage que l'on a pour soi-même. Il dit, nous savons, c'est quelque chose que nous connaissons avec conscience, ici, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, cela parle, bien sûr, de la vie éternelle. Hein, c'est ce que Jésus dit dans Jean 5, 24. Hein. Il parle de celui qui croit en lui. Il dit qu'il est passé de la mort à la vie. Hein. Donc, c'est une manière de dire qu'il a la vie éternelle. Et Jean dit que nous le savons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Que nous avons la vie éternelle parce que nous aimons les frères. Il dit pas parce que nous aimons tout simplement, mais parce que nous aimons les frères. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous voulons parfois certifier notre appartenance à Christ par beaucoup d'autres choses que nous faisons, que nous pouvons faire ici. Mais ici, Jean insiste, il dit que ceux qui sont en Christ ont la certitude qu'ils appartiennent à Christ parce que ils ont l'amour véritable pour les frères. L'une des raisons, je vous rappelle, hein, pour lesquelles Jean écrivait cette lettre, c'était pour affermir les croyants, pour qu'ils aient la certitude qu'ils ont la vie éternelle, eux qui croient au nom du Fils de Dieu. Et il leur dit que cette vie éternelle, vous savez que vous l'avez parce que vous voyez en vous se manifester l'amour pour les frères, ici. Cette vérité-là, elle est mise en contraste, si vous voulez. Jean la fait ressortir en mettant le contraste avec l'exemple de Caïn. Il dit que nous ne devons pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère à cause des œuvres mauvaises qu'il y avait en lui. Donc, il parle ici de la filiation de Caïn. Il dit que Caïn était du malin. Autrement dit, il avait pour père le diable. Et son attitude à l'égard de son frère, ça a été le meurtre. Hein. À cause de sa filiation spirituelle, eh bien, il a tué son frère par jalousie, par envie, par égocentrisme, ici. Donc, il montre qu'il y avait un lien dans l'appartenance, si vous voulez, de Caïn et dans l'œuvre qu'il a accomplie. Un peu comme Jésus dit aux pharisiens quand il discute avec eux, aux juifs, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. On veut toujours accomplir les désirs de son père. Hein? Spirituellement parlant, si on est du diable, on accomplira, notre désir sera d'accomplir la volonté de notre père. Si on est un enfant de Dieu, notre désir profond sera d'accomplir la volonté de Dieu, notre père. Et c'est pour cela que Jean dit, vous savez que vous avez la vie éternelle, parce que vous aimez les frères. Parce que aimer les frères, ça n'est pas une œuvre naturelle. Ça n'est pas la marque distinctive de quelqu'un qui n'a pas Christ en lui. La jalousie, la haine, le meurtre, cela, c'est ce qui est naturel pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais aimer les frères, c'est quelque chose qui ne vient pas de la nature humaine. C'est quelque chose qui vient de l'esprit que Dieu fait habiter dans ceux qui le reçoivent. Rappelez-vous ce que Jean avait dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3. Jésus avait dit à Nicodème qu'il faut naître de quoi ? D'eau et d'esprit. Et il parlait de la nouvelle naissance, de la régénération par le fait d'être né de l'esprit. C'est-à-dire quand on se tourne vers Christ, quand il nous régénère, bien, il donne son esprit, fait habiter en nous son esprit. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La première caractéristique du fruit qu'il donne, c'est quoi? C'est l'amour. Et donc, quand l'esprit de Dieu habite le croyant, quand il est né véritablement de nouveau, eh bien, il porte en lui ce fruit qui est l'amour, et il est rendu capable d'aimer les autres. Quelqu'un a cité tout à l'heure dans sa prière 2 Timothée chapitre 1 verset 7 où il est dit que l'esprit, comme Paul parle à Timothée, il dit que nous n'avons pas un esprit de timidité mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Donc l'esprit que Dieu fait habiter dans le croyant est un esprit qui produit le fruit qu'est l'amour dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il est capable d'aimer véritablement comme Dieu le demande, comme Dieu le commande ici. Donc, là, il faut chercher, dit Jean, la réalité de la relation avec Christ dans la nature de la relation qu'on a avec les frères et sœurs. C'est en mesurant combien on aime les frères et sœurs que l'on peut savoir si véritablement on appartient au Seigneur. Je relève ici cette citation de Jean Calvin qui dit « Personne n'aime sincèrement ses frères. » Il dit « À moins qu'il ne soit régénéré par l'Esprit de Dieu. » Et donc il dit que Jean conclut donc à juste titre que l'Esprit de Dieu qui est vie habite tous ceux qui aiment les frères. Donc aimer les frères, c'est un signe évident de l'habitation de l'Esprit en nous, ici. Et c'est une chose qui est, je crois, importante, sur laquelle nous devons profondément considérer. On pourrait lire beaucoup d'exemples dans la Bible où l'Écriture relève l'amour pour les frères comme signe de l'appartenance à Christ. Mais je vous donne un exemple dans 3 Jean, parce que c'est juste à côté. 3 Jean, regardez ce que Jean lui-même écrit à Gaius. Et à partir de verset 5, il lui dit, verset 4 même, il dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Je voudrais dire, depuis le verset 3 déjà. « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Verset 5. « Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. » Voyez ici, j'aime bien ce passage parce que Jean exprime sa joie pour ceux qui marchent droitement dans l'Évangile, ceux qui suivent et qui sont fidèles dans la marche avec Christ. Et il dit cela à Gaius, il dit même à Gaius que beaucoup ont rendu témoignage de la vérité qui agit en lui. Et comment est-ce que cette vérité est mise en évidence? Le verset 5 dit, « Parce qu'il a agi fidèlement dans ce qu'il a fait pour les frères, et même pour les frères qu'il ne connaissait pas auparavant, même pour les frères étrangers. » Il dit que même ses frères, elles ont rendu témoignage de l'amour, de ton amour, en présence de l'Église. Si vous prenez l'exemple de Philémon, l'apôtre Paul dit la même chose à Philémon. Il parle de son amour pour les frères. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un marqueur de notre appartenance à Dieu. L'enfant de Dieu, celui qui est véritablement enfant de Dieu, il aime les frères. Regarde, retournons à 1 Jean, chapitre 3, ici, 1 Jean, chapitre 4, plutôt. Regardez le verset 7, par exemple, l'apôtre Jean dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Entre parenthèses, quiconque aime les frères particulièrement, est né de Dieu et connaît Dieu. Et on sait que c'est pas quelque chose qui est évident d'aimer les frères, C'est facile, plus facile parfois d'aimer ceux qui sont, et j'ai entendu beaucoup de gens qui disent, c'est plus facile d'aimer les inconvertis que d'aimer les convertis. C'est facile d'aimer les gens qui sont au travail. C'est un peu plus facile. Parce que on n'a pas vraiment de relation, intime avec ces personnes. Mais les gens avec lesquels nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, qui sont à côté de nous semaine après semaine, c'est difficile de les aimer naturellement. Ils sont pas comme nous voudrions qu'ils soient, n'est-ce pas? On aimerait qu'ils soient comme nous, etc. Il y a plein de choses, ils viennent pas de la même origine que nous, ils ne comprennent pas comme nous, ils n'ont pas le même arrière-plan que nous, ici. Mais le Seigneur veut que, l'amour, la réalité de la nouvelle naissance, de l'action de la nouvelle naissance en nous se manifeste par l'amour que nous avons pour ceux qu'il a placés auprès de nous, pour les autres chrétiens. Et c'est même un signe d'un témoignage extérieur aussi. On a dit tout à l'heure que c'est cela nous rassure nous-mêmes, mais cela est un témoignage pour ceux qui regardent vivre les chrétiens. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 12, verset 13, verset 35, quand il dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Il n'a pas dit quand vous serez fidèle à l'église, il n'a pas dit quand vous allez prêcher, il n'a pas dit quand vous allez chanter, quand vous allez présider, quand vous allez faire de la distribution sur la place publique. Il dit rien de tout cela. Il dit tous, il dit bien, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que cette qualité d'amour qu'il demande là ne peut venir que d'un cœur régénéré. Et c'est une chose qui est d'une extrême importance. Quiconque, continue la lecture ici, verset 15, dit Jean, est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et donc, Jean indique que le manque d'amour, on pourrait dire la haine, est la preuve de la mort spirituelle. De même que l'amour pour les frères est la preuve de la vie spirituelle dans le croyant, la haine continuelle est la preuve de la mort spirituelle, car la haine est semblable au meurtre. Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 5, on ne va pas y revenir, verset 21, verset 27. Et donc, il est évident, bien sûr, qu'un meurtrier peut se repentir. Quelqu'un qui a commis un meurtre peut se repentir et devenir un enfant de Dieu. De même que quelqu'un qui a eu de la haine envers son frère peut se repentir et puis, envers quelqu'un peut se repentir et devenir aussi un enfant de Dieu. Mais ce que Jean souligne ici, c'est que si quelqu'un prétend être un enfant de Dieu et qu'il marche avec la haine continuelle dans le cœur contre un frère ou une sœur, il doit se poser des questions sur la réalité de sa relation avec Dieu et de son appartenance à Dieu. C'est exactement ce qu'il dit au chapitre 2, par exemple, verset 7, chapitre 2, verset 1 Jean 2, je crois, il dit cela. Non, c'est pas ce que je voulais. Où il parle de la communion, j'ai pas exactement. Oui, voilà, verset 9, pardon, chapitre 2, verset 9, il dit ici, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc il dit, on peut avoir des prétentions ici, on peut dire « je suis », mais il dit ici non, la réalité sera mesurée par l'amour que l'on a pour les uns, pour les autres. Et donc, celui, chers frères et sœurs, qui refuse d'aimer, qui refuse de pardonner, qui maintient dans son cœur de la haine pour les frères, il doit se poser la question de la réalité de son salut. C'est ce que l'Épître nous invite à faire ici. Il dit, celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il dit même qu'il est un enfant du diable. Donc on ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu et demeurer continuellement, année après année, mois après mois, avec de la haine contre des frères ou des sœurs. Parce que celui qui a de la haine est un meurtrier, dit le verset 15, et il dit, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui-même. Aucun haineux n'a la vie éternelle demeurant en lui-même. Verset 16, on regarde un petit peu le verset 16 ici du chapitre 3, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeure-t-il en lui? Il dit que le croyant qui est bénéficiaire du sacrifice de Christ a obligation du sacrifice de soi pour ses frères. Celui qui a été mis au bénéfice du sacrifice de Christ doit a obligation de sacrifice de soi pour ses frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, l'amour de Christ, c'est la mesure de notre amour pour les autres frères et sœurs. Et donc, Jean dit que notre connaissance expérimentale ici de l'amour de Christ doit nous conduire à offrir notre vie pour les frères. Donc, le croyant ne doit pas vivre dans la retenue à l'égard de ses frères. Son expérience de l'amour de Christ implique qu'il se donne aussi entièrement aux autres, entièrement à ses frères. Nous aimons chanter beaucoup la bénédiction que c'est que d'être au Seigneur. C'est une bonne chose. Nous avons chanté ce matin, prier, remercier Dieu pour le salut qu'il nous accorde, pour le fait qu'il nous ait aimés jusqu'à offrir sa vie pour nous. Mais nous ne devons pas oublier ce que cela implique. Lorsque l'on peut chanter avec beaucoup de reconnaissance ce que Christ a fait pour nous, nous ne devons pas oublier qu'il nous place devant l'obligation aussi d'offrir notre vie pour les autres. Si telle a été notre expérience ici, telle doit être notre attitude aussi à l'égard des autres ici. Et donc, l'amour de Christ est la mesure vraiment de notre amour pour les frères. Il dit, c'est l'amour, nous l'avons connu parce que Christ s'est offert pour nous. Et nous devons faire connaître l'amour aux autres par le fait que nous nous offrons aussi pour nos frères et sœurs. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'un sacrifice expiatoire. Seul Christ offre un sacrifice expiatoire. Nous ne pouvons pas offrir notre vie comme une victime expiatoire pour les autres. Il n'est pas question de cela. Et d'ailleurs, il est fort probable qu'aucun d'entre nous ici n'auront à offrir vraiment notre vie à la place de quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Mais il dit que c'est la mesure jusqu'à laquelle on doit aller. On doit être prêt à payer coûte que coûte le prix pour nos frères et sœurs. Si quelque chose que nous pouvons faire à leur égard nous demande de payer un prix élevé, eh bien nous devons être prêts à payer ce prix élevé là. Et 1 Jean 4, 9, 11 dit, bien-aimé, nous allons lire 1 Jean 4 à partir du verset 9. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et si on lit, ça ressemble un peu au passage qu'il dit dans Jean 3, 16 où il est question que Dieu, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez cela? Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Autrement dit, il faut regarder au sacrifice de Christ, à cet amour manifesté en Jésus-Christ pour trouver la mesure de l'amour que l'on doit avoir les uns, enfants de Dieu, envers les autres, les croyants entre eux ici. Nous devons, c'est un devoir ici. Nous devons donc nous aimer les uns les autres. Et cette vérité traverse l'Écriture. Quand l'apôtre Paul parle du pardon, par exemple en Colossiens 3, il dit « Supportez-vous les uns les autres. » Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Et il ajoute, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Autrement dit, ce dont on a, bénéficié, on a bénéficié d'un amour incommensurable, eh bien, on doit aimer sans retenue. On doit aimer nos frères et sœurs, en tout cas, sans retenue. On a été au bénéfice d'un pardon par de Christ, eh bien, nous devons aussi pardonner à nos frères et sœurs. C'est un devoir que nous avons. Vous voyez ce qu'il dit ici, hein, il dit, si, je relis le verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous devons, ce n'est pas une option, c'est une obligation, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Nous avons des exemples dans la Bible de, par exemple, Priscille et Aquilas, hein, où l'apôtre Paul dit qu'ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. C'est des gens qui n'ont pas eu peur d'aller jusqu'à l'extrémité pour que Paul puisse vivre et continuer son ministère. Il parle dans l'Épître aux Philippiens, que nous avons commencé à étudier, il parle d'un homme qui s'appelle Épaphrodite, et il dit qu'il a été proche de la mort. C'est des gens qui sont allés à l'extrême limite. Et lui, il l'a fait pour suppléer à votre absence. Hein, et ce qu'il dit de la part d'Épaphrodite. Donc on pourrait en trouver d'autres, des exemples de personnes qui sont allées au bout pour manifester leur amour pour les autres. Et l'apôtre Jean dit, c'est ainsi que nous devons aimer aussi les frères et les sœurs. Bien sûr, il donne un exemple ici au verset 17. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors bien sûr, nous ne serons pas tous appelés à donner notre vie, à aller au bord de la mort, peut-être, pour un frère. Mais peut-être que nous avons des biens du monde et que nous avons des frères qui sont dans le besoin. Eh bien, il dit, le cœur ne doit pas se fermer. La manifestation de la réalité de la nouvelle naissance en nous doit produire ce fruit-là, le fait que nous cherchions à répondre aux besoins des uns et des autres. Nous devons faire rencontrer notre abondance avec la disette des autres frères et sœurs qui sont autour de nous. Mais je crois que ce qu'il donne ici, c'est surtout le principe. Il dit que il y a parfois des besoins, et puis parfois nous avons des biens. Alors c'est pas forcément des biens matériels. Peut-être nous avons du temps, peut-être nous avons de l'énergie, peut-être nous avons de la jeunesse, peut-être nous avons de l'expérience. Et nous devons agir et faire profiter de tout cela à ceux qui sont dans le besoin. Et chacun on doit ainsi s'aimer les uns les autres. Celui qui ferme son cœur par rapport aux besoins des autres, il dit, on ne peut pas dire qu'il a l'amour de Christ qui règne en lui. Si quand je sors du travail, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon temps de repos, et puis tous les besoins spirituels, peut-être un frère est jeune dans la foi, il a besoin d'être encouragé, de grandir dans la connaissance de Dieu. Mais moi, bon, c'est pas ce qui est important, c'est mon repos qui est la chose la plus importante. Eh bien, il dit, l'amour de Dieu n'habite pas en moi. Parce qu'il y a un besoin. Peut-être je suis plus ancien dans la foi, je pourrais aider, et je ne le fais pas. Je ferme mon cœur. C'est un bien que j'ai, la connaissance de Christ. Et je peux, et c'est un besoin que l'autre a quand il est au début de sa vie chrétienne. Et je peux faire rencontrer ces deux choses. Alors, il y a, bien sûr, on pourrait trouver quantité de foule de choses. Il y a mille et une manières qui s'imposent à nous et à travers lesquelles nous pouvons faire correspondre les besoins avec ce que nous, des uns avec ce que nous avons, nous, ce que Dieu nous donne. L'amour doit toujours s'exprimer aussi de la manière la plus efficace. Donc, Jean dit ici, voilà, qu'on doit faire, on doit faire correspondre nos biens avec les besoins des autres. Mais il dit qu'on doit le faire de la manière la plus efficace. Verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, et avec la langue, mais en action et en vérité. Il y a des fois où on peut aimer avec la parole, c'est-à-dire on peut dire des paroles qui sont des paroles de consolation. C'est une manière d'aimer. Hein? On prononce des mots qui sont des mots de consolation à l'égard de quelqu'un. C'est une manière d'aimer. Mais il y a des moments où il faut aller plus loin que la parole. On peut dire à quelqu'un, j'avais lu dans ce livre cet homme qui arrive dans une église une fois et puis c'était sa première venue dans l'église et puis quelqu'un lui dit ah c'est très bien que tu sois ici on est content de t'avoir eu parmi nous un de ces jours il faudra qu'on se rencontre et puis il est resté des années et il dit cette personne qui m'a dit un de ces jours il faudra qu'on se rencontre ne m'a jamais rencontré ni jamais invité pour me rencontrer. C'est-à-dire, on peut exprimer, un exemple, on peut exprimer des choses avec les mots. C'est bien, c'était encourageant d'avoir entendu cela. Mais il n'y a pas eu de concrétisation, parfois, derrière. Donc, parfois, il faut, les mots juste suffisent. On peut dire à quelqu'un, je prie pour toi et ça suffit à l'encourager. Mais parfois, il y a des moments où il faut aller jusque dans le geste. Jusque ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, il faut aimer non pas seulement en parole avec la langue, mais il faut parfois ajouter le geste, les actes à la parole pour que ça soit effectif et efficace. Et Dieu peut nous montrer aussi mille et une manières dans lesquelles nous pouvons être un encouragement, une aide pour nos frères et pour nos sœurs. Donc je voudrais dire, chers frères et sœurs, que dans tout ce que j'en dis ici, il dit, il n'y a que deux catégories de filiation spirituelle. Il y a les enfants, ceux qui sont du diable et ceux qui sont de Dieu. Et ici, aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui sont des enfants de Dieu et d'autres qui sont des enfants du diable. C'est pas moi qui dis cela, c'est la parole qui nous le dit. Parce qu'il dit que celui qui ne connaît pas Dieu est un enfant du diable, celui qui connaît Dieu est un enfant de Dieu. Donc si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il n'est pas entre les deux, il n'y a pas de zone intermédiaire. On est ou un enfant de Dieu, mais ou un enfant du diable. Mais Jean ne le dit pas non plus pour donner juste une information. Il le dit pour que nous puissions considérer les choses avec sérieux. Et afin que nous puissions venir, que vous puissiez venir à Christ si vous n'êtes pas encore venu à Christ. Parce qu'il dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Et que Dieu le fait passer de la mort à la vie. D'enfant du diable qu'il est, il devient un enfant de Dieu. Et cela est possible encore aujourd'hui. Donc si vous ne connaissez pas Christ, eh bien vous pouvez venir à lui, vous pouvez lui croire en lui, vous repentir de vos péchés et être, devenir un enfant de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien l'apôtre nous dit ici que cela doit se manifester par le marqueur infaillible qu'on appelle l'amour pour les frères, l'amour pour les croyants, l'amour véritable pour les croyants. Ici, nous ne pouvons pas nous contenter de choses purement intellectuelles. Nous ne pouvons pas croire que l'évangile c'est quelque chose qui se passe seulement dans la tête. C'est beaucoup plus que ça. C'est une transformation intérieure qui se manifeste aussi par des attitudes extérieures à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Et Dieu veut que nous mesurions la réalité de notre attachement à lui, de notre appartenance à lui, par l'attachement que nous avons les uns pour les autres. Et nous devons donc prier pour que nous nous aimions de plus en plus les uns les autres. L'apôtre Paul disait par exemple aux Thessaloniciens, je vous lis cela, il parlait de l'amour fraternel. Donc l'amour entre les frères ici. Et il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 9. Et pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous voyez? C'est intéressant comment il dit ça. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus, vous savez déjà comment il faut vous aimer, vous l'avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et puis regardez ce qu'il ajoute. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers les frères dans toute la Macédoine. Et vient l'exhortation maintenant. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est intéressant, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise là-dessus. Vous savez déjà le faire. Et même vous le faites. Mais moi je vous dis, grandissez encore plus dans cet amour. Et donc ce que nous avons besoin de, en tant que croyants, de prier pour nous-mêmes, c'est que notre amour pour les frères augmente de plus en plus. Pas simplement avec la parole et la langue, mais vraiment de manière concrète. Qu'est-ce que je fais pour manifester concrètement mon amour pour les autres? Est-ce que j'aime être avec eux? Est-ce que, voilà, j'aime me retrouver dans les réunions avec eux. Quand il y a des occasions, eh bien, je suis là pour partager que nous sommes frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu pour nous encourager mutuellement. Ou est-ce que je fuis et c'est mon petit confort qui m'intéresse? Je suis au culte une fois que c'est terminé, hop, c'est parti, c'est fini. Non, on a besoin de se retrouver, de s'appeler, de faire une balade ensemble, de faire des choses que Dieu peut nous montrer. En tout cas, ensemble, les uns avec les autres, d'être attentif aux besoins des autres. La question que Dieu a posée à Caïn, il nous la pose. Où est ton frère? Caïn a dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu nous pose la même question continuellement. Où est ton frère? Et nous devons savoir où il se trouve, dans quel état il se trouve, dans quel besoin il est. Est-ce qu'il est dans nos prières? Est-ce qu'il est dans nos préoccupations? Est-ce qu'il est dans nos plans? Est-ce que je pense à lui? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je prie pour lui? Nous avons besoin de pratiquer ces choses dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Naturellement, nous sommes égoïstes, égocentriques, et nous pensons à nous-mêmes. Mais nous avons besoin de manifester que Dieu agisse en nous pour que cet amour pour les frères augmente de plus en plus. L'apôtre, et je termine avec cela, souvenez-vous de ce que Paul écrit aux Corinthiens, lorsque dans l'église, ils étaient fiers des dons qu'ils avaient, des dons spectaculaires. Soit ils disaient, moi je parle en langue, et c'est vraiment le don spectaculaire par excellence, et ils se croyaient quelque chose, et pouvaient prendre cela comme signe de leur spiritualité. Et Paul leur dit en 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, même si je parle la langue des anges, même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, même si j'ai toute la connaissance de la planète, il dit, si je n'ai pas l'amour pour les frères, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie par excellence, il dit, c'est l'amour. Que le Seigneur nous aide à saisir ces choses et à chercher comment nous pouvons efficacement, concrètement, nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour des frères est le signe distinctif de l'appartenance à Dieu. On ne va pas chercher à aimer pour devenir un enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Parce que quand on est de Dieu, ça dépend de Dieu. L'apôtre Jean le dit dans l'évangile de Jean, hein, ce n'est ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais c'est de Dieu que cela vient. D'accord. Mais quand on est un enfant de Dieu, cela se manifeste par l'amour pour les frères. Et donc prions que le Seigneur nous aide à vivre comme sa parole nous le commande. C'est un commandement, dit Jean. Vous devez vous aimer les uns les autres. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole.